Pierre pour les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 6 dédiée à la conscience collective qui vise à nous faire un pas de côté par rapport à notre individualité, de telle sorte que l'on emprunte le chemin du à plusieurs pour faire, devinez quoi, la guerre à la guerre. Peut-être que vous suivez cette saison 6 avec intérêt, avec intéressement, de manière à prolonger aussi l'expérience de ces 5 dernières saisons qui ont été dédiées à tourner autour de notre joli nombril, de telle sorte qu'on se rende compte que nous ne sommes pas seuls, que les autres sont le miroir de nous, que nous sommes le miroir des autres et que, d'une certaine manière, et c'est aussi le parti pris de Les Doigts dans le Miel, ça vient de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Si je suis à même d'exploiter mes échecs de vie, ma colère de vie, ma fin de vie, la paix dans la vie, mon potentiel de vie, alors j'aurai tout à gagner justement au moment où je saurai sortir de mon jeu, de mon moi, de mes pour aller vers les autres. Nous avons perdu notre individualité de telle sorte que nous puissions poursuivre avec beaucoup de conditionnels, de futurs conditionnels, mais tout ça est en marche. Poursuivre le rêve de l'humanité qui est de vaincre la mort littéralement. Devinez comment est-ce qu'on va y arriver ? Ben, en passant par ce qui s'appelle le savoir, la connaissance, l'information beaucoup plus poussée, c'est-à-dire l'information digérée qui devient de la connaissance. La connaissance, c'est ce qui nous permet de capitaliser sur l'existant pour innover, pour améliorer l'existant, pour mettre des choses dans nos vies individuelles et collectives qui n'y étaient pas présentes. C'est également la manière que nous avons de pouvoir faire inventer, créer, développer des idées, imaginer, parce que si l'imagination n'est pas le mensonge, j'aurais dit le petit Nicolas, et que nous n'avons que les limites que nous nous fixons pour imaginer des choses qui n'existent pas, eh bien, en référence à toutes ces imaginations, nous utilisons ce que nous avons déjà vu, ce que nous avons déjà lu, ce qu'on nous a déjà partagé. Donc on utilise aussi nos expériences de vie, l'expérience de vie des autres, les textes sacrés que l'on peut découvrir à travers les religions, les textes sacrés que l'on peut découvrir à travers l'histoire de la philosophie, les textes sacrés qui nous proviennent de toutes les guerres qui se sont passées, que ce soit la guerre de 100 ans, les premières et secondes guerres mondiales, que ce soit les guerres que Marc Aurèle avait déclenché, auquel il a survécu, là où il a bataillé, les guerres liées au 1, les guerres liées à la conquête des Templiers, bien pour aller en Terre Sainte, les massacres qui ont été perpétrés à ces époques-là, les massacres qui se perpétuent encore aujourd'hui, les moments de paix, et tout ça fait un enchevêtrement de liens où nous sommes capables aujourd'hui d'imaginer différents pôles de connaissances en fonction de situations. Ça pourrait très bien être la géopolitique, ça pourrait très bien être l'histoire, ça pourrait très bien être les sciences, ça pourrait très bien être ensuite la physique, la chimie, les mathématiques, les sciences de la vie, la pharmaceutique, le commerce, en inter-entreprise, le commerce de denrées alimentaires, le commerce, j'en passe, c'est des meilleurs. Au même titre d'ailleurs que le développement personnel est un de ces pôles de connaissances. Et pour la petite anecdote, contrairement à des graineries que l'on pourrait compter, même si ça nous prendrait du temps de le faire dans un champ, le développement personnel n'est pas quantitatif. C'est quelque chose qui, pour le coup, lorsqu'il est relié à notre conscient, inconscient, subconscient, à tout ce que l'on peut trouver à droite et à gauche pour nous renseigner, pour apprendre, pour nous développer personnellement, et du coup mieux nous développer à plusieurs, en réalité, c'est un chemin sans fin. C'est quelque chose qui peut prendre toute une vie et que vous n'en auriez pas encore assez. Donc, il y a des environnements comme ça, des pôles de connaissances qui sont à exploiter et à passer de génération en génération en génération en génération. Les Chinois étaient férus d'astronomie il y a des centaines d'années. Nous avons importé aussi l'astronomie des pays arabes au sein desquels la France a, par exemple, pour ne prendre qu'un exemple avec la France, a tenté de piller d'un point de vue ressources. On peut aussi voir comment est-ce que le monde arabe évolue aujourd'hui et comment est-ce que il est en pleine crise, où il se demande, eh bien, vers où est-ce qu'on va ? Est-ce qu'on reprend une éducation telle qu'on l'avait il y a quelques siècles, de manière à mieux prospérer aujourd'hui ? Est-ce qu'on reprend le dessus par la science ? Est-ce qu'on reprend le dessus par l'éducation ? Est-ce qu'on... etc., etc. Les pôles des connaissances, on peut le voir de manière globale, à échelle continentale. On peut le voir par période d'histoire. Il y a, par exemple, le Moyen-Âge, la période de la République, la préhistoire. Enfin, on peut découper comme ça par tronçons les derniers milliers d'années pour savoir jusqu'où est-ce qu'on est capable de remonter, et pourquoi pas à l'âge de l'agriculture, pour définir, eh bien, en quoi les systèmes d'avant pourraient encore servir à améliorer nos systèmes d'aujourd'hui. À notre échelle à nous, à notre échelle personnelle, on peut le voir de manière croisée entre les pays et la manière dont on se développe en ce moment dans le monde avec les pays émergents, les puissances globales, les pays du tiers-monde. On peut le voir en fonction de différents critères. Par exemple, la manière dont sont reliées les villes, la manière dont peuvent s'échanger les informations, combien de temps ça prend. Pareil pour les denrées, pour les échanges de biens et de services. On peut le voir également sur le plan de la richesse financière, de la richesse commerciale, de la richesse du développement de l'armée. On peut le voir en fonction du nombre de diplômés, du nombre d'innovations, du nombre de brevets qui sont déposés chaque année pour protéger les découvertes d'un pays ou d'un autre. Il y a des batailles pour ça. Il y a de la recherche de budget, il y a de la recherche de cerveau, il y a des échanges en tout genre qui font que l'information aujourd'hui circule toujours selon les nouvelles routes de la soie, mais d'une manière qui est bien plus distribuée, notamment avec Internet, grâce et à cause d'Internet depuis quelques dizaines d'années maintenant. Alors, tout ça c'est très intéressant parce que ça nous permet de nous positionner avec des gros conflits identitaires, et on en revient à une saison 1 qui était la bestialité, où il s'agissait de faire face à ces contradictions, tout simplement pour progresser. Le monde est bourré de contradictions. Des puissances qui sont établies depuis des siècles et des siècles, et je prends l'exemple de l'Europe, qui est aussi appelée le vieux continent. L'Amérique du Nord, ainsi que l'Asie, et notamment avec la Chine, sont des superpuissances qui dominent relativement le monde, à la fois par leur nombre et par leur puissance financière, par les industries qu'elles font fonctionner, par leur capacité à racheter des terres, à investir des terrains, à faire de l'écoute, à dominer le monde d'un point de vue politique, socio-économique, d'un point de vue géopolitique. Et pourtant, il y a des espaces qui ne sont pas considérés comme des superpuissances parce qu'ils ne cochent pas des cases, tout simplement, mais qui sont en réalité plein de potentiel du fait de la manière dont l'information circule à l'intérieur. Parce qu'en réalité, avec Internet, aujourd'hui, vous pourriez très bien être le dernier des Pékins moyens à travailler dans des mines de diamants, par exemple, sud-africaines, que si vous aviez un accès à Internet, et c'est le cas, je prends un exemple concret, je prends un exemple vrai, si vous aviez un accès à Internet et que vous alliez sur Coursera, par exemple, vous pourriez accéder gratuitement à un certain nombre de cours dispensés par les meilleurs professeurs du monde issus des universités les plus prestigieuses à l'international. Ça peut être Chicago pour l'économie comportementale, ça pourrait être Stanford pour l'intelligence artificielle, ça pourrait être HEC ou l'INSEAD pour le commerce. J'en passe et des meilleurs. Les pôles de connaissances, aujourd'hui, ce sont des atouts compétitifs pour la domination du monde. C'est-à-dire, plus je dispose de connaissances, plus je suis en mesure de développer mes compétences. Parce que la compétence, ce n'est rien que du savoir digéré. La connaissance, c'est quelque chose qu'on exploite au service d'une cause, au service d'une vision, au service d'une mission, au service d'objectifs. Ça fait partie des moyens. Et donc, c'est pour ça que savoir beaucoup de choses, c'est bien, mais c'est insuffisant. À notre échelle, Eh bien, les pôles de connaissances, on peut les voir de différentes manières. Vous, en tant que personne, moi aussi, nous sommes des pôles de connaissances. On a vécu, un petit peu, pas encore toute notre vie. On a appris des choses en lien avec les arts, en lien avec le sport, en lien avec l'histoire, en lien avec les sciences, en lien avec notre métier, en lien avec l'école, en lien avec notre famille, en lien avec la survie, en lien avec les émotions, en lien avec les situations, en lien avec celles des autres, tous ces sujets-là liés aux autres. Ça nous a permis de construire des pôles de connaissances empiriques. Quand on reconnaît, au sens reconnaissance du terme, au sens autorité, où on fait confiance pour avoir la bonne information avec quelqu'un, quand on reconnaît une autre personne comme étant un pôle de connaissances, eh bien on fait en sorte de capitaliser dessus. Si votre maman, elle sait faire, ou votre papa savent faire des super bons plats en cuisine, et on parle bien des soupes de grand-mère et des soupes de grand-père, un petit peu moins, mais ça existe quand même, c'est bien parce qu'en fait, la soupe n'a pas le même goût, parce que ça fait 50 ans peut-être que votre grand-mère, elle fait des soupes. C'est un exemple très simple, mais il n'empêche que sa soupe n'a pas le même goût que la vôtre, qui est déjà très bonne, alors que ça fait que 3 ans que vous en faites. Ah oui. Il y a un ratio énorme entre chaque. Donc il y a un ratio de 15, quelque chose comme ça. Donc, les pôles de connaissances agissent de manière distribuée dans nos environnements. Peut-être que ça va être quelqu'un qui fait du poulet frites super bien par rapport aux autres. Peut-être que ça va être quelqu'un pour les soupes. Peut-être que ça va être quelqu'un pour le magret de canard. Peut-être que ça va être quelqu'un pour le couscous, etc., etc. Je prends les exemples de cuisine en espérant à la fois vous donner un petit peu faim, mais surtout parce que c'est très tangible. Un plat dans l'assiette, quand il est bon, on le reconnaît. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans des hôtels prestigieux ou dans des restaurants étoilés, de gastronomiques ou pas d'ailleurs, mais parce qu'on trouve par exemple d'excellents restos sur les bords de route, parfois dans certains pays, en France aussi, qu'ils soient ou non référencés dans les guides Michelin. Ça se voit et ça se sent, à la fois d'un point de vue odorat et d'un point de vue gustatif, où l'odorat intervient d'ailleurs. Donc, un pôle de connaissance est palpable. Maintenant, il y a des personnes qui ont beaucoup d'informations, mais qui ne savent pas l'utiliser. Alors ce sont des puits de savoir, mais en termes de compétences pour les exploiter, ils sont nuls. Ils sont pas nuls, mais ils sont pas à la hauteur de leur savoir. Parce que c'est pas leur truc que de faire. C'est leur truc d'apprendre, d'ingurgiter, de digérer, de mélanger, mais pas de retranscrire forcément. Ou pas de la manière qui leur permettrait d'exploiter tout le potentiel. Par exemple, un enseignant peut être ce genre de personne. Un enseignant-chercheur va faire en plus des actions pour en découvrir plus. Une personne qui est passée par le milieu pour devenir enseignant-chercheur, mais qui finalement se dit « Allez, je passe côté entrepreneuriat », c'est quelqu'un qui a de la connaissance digérée et qui en fait des compétences dans la vie de tous les jours, non pas pour la transmettre à d'autres, non pas pour faire des découvertes spécialement d'un point de vue innovation, bien que ça puisse être combiné, et aussi pour monter son entreprise, donc transformer ça en compétences business, pour multiplier son potentiel de richesse intellectuelle, émotionnelle, scientifique, qui rejoint d'ailleurs le côté intellectuel, financière, humaine, recrutement par exemple. Financière, ça peut être la vente de biens et services. Humaine, ça peut être le recrutement, ça peut être le placement de personnes dans des sociétés, ça peut être le fait de rencontrer d'autres gens, donc de faire travailler son réseau. Et ce qui est commun à tout ce que je dis depuis le départ, c'est l'aspect fractal. C'est-à-dire qu'on peut toujours aller plus loin jusqu'à ce qu'à un moment, on ait subdivisé chaque branche chaque pôle de connaissances en plusieurs autres petits pôles qui deviennent à leur tour un gros pôle de connaissances pour être plus aptes à être digérées par les autres, qui ensuite se redivisent en sous-catégories, qui redeviennent à leur tour une manière un nouveau pôle de connaissances globales qui se resubdivise, etc. Et à travers les âges, comme ça, il y a des pertes et des découvertes, des gains et des disparitions de connaissances qui fluctuent et que l'on redécouvre de manière assez cyclique. Et donc, c'est tout à fait intéressant de voir à quel point, par exemple, les civilisations grecques et romaines étaient extrêmement avancées en leur temps, en leur période, en période de l'Empire romain, par exemple. De voir qu'au moment de la Renaissance, eh bien, il y a tout un travail qui a été fait par des penseurs pour démocratiser à nouveau le savoir et la capacité de penser. Je vais prendre un exemple que j'avais eu au bac, pour le coup, il y a 10 ans. Quelle était l'évolution, grosso modo, des philosophes? En parlant des philosophes des Lumières, eh bien, les représentations des philosophes d'un point de vue artistique, sur les peintures, c'était au départ des personnes extrêmement seules qui vivaient dans des châteaux, avec beaucoup d'allégories sur le savoir et la connaissance, mais aussi beaucoup sur l'aspect individuel et solitaire. Et puis, les tableaux qui suivaient les dizaines d'années après, c'était des conversations de quartier. C'était des personnes qui étaient très sociales. C'était des personnes qui participaient à la vie du peuple au sens... on le fait dans les rues, dans les bars, dans les restos. Pas uniquement depuis chez soi, seul comme un loup solitaire. Donc, il y a différentes manières dont les pôles de connaissances se sont traduits dans le temps. Elles sont revenues de manière cyclique parce que c'est un petit peu... Les nations fortes forment des nations faibles qui, à leur tour, forment des nations fortes. Le fait est que quand on vit dans un environnement précis, cet environnement implique que la suite sera une suite différente qui va réimpliquer à suivre un retour en arrière en capitalisant sur les expériences des précédentes. C'est un peu comme le B-A-B-A. B-A forme B-A, forme B-A. C'est la base du vocabulaire, c'est quand deux lettres s'assemblent, elles forment... une syllabe et puis ça fait un son particulier. Eh bien, c'est exactement le même principe. Il se passe des choses dans l'histoire qui en entraînent d'autres, qui en entraînent d'autres qui sont exactement, mais d'une autre manière, celles qui se sont passées avant. Et il y a comme ça des ricochets temporels que l'on peut imaginer qui font que la technologie, par exemple, évolue. Notre capacité à être précis, à découvrir l'infiniment petit, à découvrir l'infiniment loin, à découvrir l'infiniment invisible. Je vais prendre un exemple sur le rayonnement des trous noirs et la manière dont ces rayonnements forment exactement les mêmes types de cernes que les cernes que l'on peut découvrir sur un tronc d'arbre, qui qualifie à la fois son âge et les saisons douloureuses ou plus faciles à vivre que l'arbre a traversé. Comme on pourrait imaginer qu'un arbre vu de côté aurait la forme de nos poumons. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça que l'on peut découvrir grâce à la science, à l'observation. Mais l'humain en soi, depuis quelques milliers d'années, n'évolue pas beaucoup. Les pôles de connaissances qui nous permettent d'évoluer sont énormément développés autour des personnes, mais non comme impact, essentiellement, que d'enrichir les sujets phares qui sont d'abord liés à la finance, liés à la politique et à la géopolitique. C'est-à-dire que toutes les autres sciences se sont mises au service de la répartition des territoires, des richesses et du contrôle de celles-ci, de la gouvernance de celles-ci, du pouvoir de domination, du pouvoir de dire « voilà comment seront réparties les richesses ». Si aujourd'hui 1% du monde détient 90% des richesses, c'est pas anodin. C'est systémique. et ça ne date pas d'aujourd'hui. S'il suffisait d'être extrêmement développé d'un point de vue personnel pour se rendre compte à quel point on pouvait dominer le monde, dans ce cas-là, il y aurait beaucoup de gens qui seraient à même de faire vraiment avancer l'humanité. Faut-il encore le vouloir? Faut-il encore avoir envie? Faut-il encore avoir vraiment envie? Alors, on peut le faire de très nombreuses manières, à son échelle, et de manière relativement fractale, du coup, parce que des petits groupes comme ça qui coexistent ensemble forment des plus grands groupes, qui en forment d'autres plus grands, qui en forment d'autres plus grands, qui en forment d'autres plus grands, qui en forment d'autres plus petits, qui en forment d'autres plus petits, etc., etc., jusqu'à l'échelle individuelle. Et le fait est que ce côté fractal évolue puisque la population globale mondiale évolue au sens positif. On est plus nombreux sur la planète demain que hier. Donc la connaissance évolue, l'accès à la connaissance, l'accès au pôle de connaissance évolue. On n'accède pas en aussi peu de temps à l'information qui vient d'être publiée par les derniers chercheurs à la pointe de la technologie en médecine à Tokyo aujourd'hui qu'il y a 200 ans. Et pourtant, quand on lit les documents qui ont permis l'émergence de l'hindouisme, quand on lit les documents qui ont permis les premiers livres de développement personnel liés à l'Égypte ancienne, il y a plus de 5000 ans, quand on lit la manière dont Rousseau a écrit le contrat social, quand on lit des documents comme ça qui tablent même sur l'émergence d'Internet, même il y a 20 ans, 30 ans, ou il y a 5000 ans, la manière de réfléchir, ou ça pourrait être les accords Toltec, ou des choses comme ça, on pourrait revenir au Mexique, on pourrait revenir du côté des Amérindiens, on pourrait revenir sur tout un tas de populations qui ont existé avant nous, en Chine, sur l'art de la guerre avec Sun Tzu, sur l'art de la persuasion, sur les stratagèmes politiques, l'art et la manière de gérer la connaissance. Mais ça n'a pas bougé d'un poil. Ça n'a pas bougé d'un poil. Les pôles de connaissance discutent entre eux de manière un petit peu différente, accélérée, mais on n'innove pas mieux aujourd'hui qu'il y a 5000 ans. Il a fallu attendre 2015 pour réinventer le frigo en terre cuite. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce truc-là. 2015, c'était il y a 5 ans, bientôt 6. 6 ans, on est en 2021 à cette heure. On ne s'est pas beaucoup développé de ce point de vue-là. L'essence même de la vie, c'est de faire en sorte que les espèces qui s'adaptent le mieux à leur environnement compétitif, et du point de vue de la vie, c'est qui mange qui, eh bien, permettent les évolutions. Et dans notre environnement, les pôles de connaissance nous indiquent essentiellement, et ça va peut-être me permettre une introduction au prochain épisode, les pôles de connaissance nous indiquent que c'est la performance qui est moteur de notre qui est moteur des pôles de connaissance à échelle de l'humanité. Pouvoir faire vite du feu pour se défendre contre les animaux sauvages ou pour aller chasser, pour cuire la viande, pour évoluer, pour domestiquer la nuit, pour domestiquer des lieux de vie. Pouvoir faire du feu, pouvoir préserver ses ressources, pouvoir en stocker plus, pouvoir les stocker plus longtemps, c'est de la performance. Sur le plan social, c'est ce qui a permis de se développer et de prospérer. Les pays qui contrôlent le plus de richesses dans le monde aujourd'hui sont ceux qui dominent le monde. Ça ne veut pas dire que c'est la plus belle des manières que d'y arriver. Ce n'est pas forcément faire promotion de l'humanisme que de considérer de cette manière la relation à la connaissance dans le monde, qui vise à promouvoir le pouvoir, l'enrichissement personnel, On fonctionne avec une économie capitalistique. Les plus riches sont les plus performants, sont ceux qui se sont le mieux adaptés. Donc, ce sont ceux qui ont réussi à exploiter le mieux les pôles de connaissances. Oui ou non, est-ce que je m'y rattache en tant qu'individu parce que j'adhère au mouvement et au tourniquet qui fonctionne comme ça à fond la caisse, est-ce que je suis capable de tourner avec, voire même plus vite, ou est-ce que je préfère le regarder tourner et voir qui chope le pompon, ou bien même m'en détourner et regarder à l'opposé. Eh bien, ça, c'est une manière de faire avec les pôles de connaissances qui nous sont accessibles aujourd'hui, à toutes et tous, sous réserve d'avoir Internet, sous réserve d'avoir des appareils pour nous connecter à Internet. Donc un espace de transfert entre le monde virtuel et puis le monde physique. Un écran connecté. Les pôles de connaissance, ce sont ceux qui nous permettent de nous développer. On peut le voir à nouveau comme d'un point de vue spirituel, à nouveau d'un point de vue émotionnel, à nouveau d'un point de vue mental, à nouveau d'un point de vue physique. Le fait est que la relation à la connaissance est une relation essentiellement capitalistique. Ce n'est pas tant ce que vous savez qui importe, mais ce que vous êtes capable de transférer dans le monde physique. Donc l'orchestration des pôles de connaissance permet d'être relié à ce qui s'appelle l'intelligence du point de vue de la théorie de la reine rouge, qui est la théorie de la biologie évolutive émise par le biologiste Leigh Van Vallen, qui dit la chose suivante: une espèce qui veut survivre à sa cohabitation avec d'autres se doit d'évoluer dans un environnement en métamorphose constante. Métamorphose égale transformation complète, quasiment identitaire, global. Méta, c'est ce qui est relié à l'ensemble des environnements. Eh bien, de ce point de vue-là, en fonction de votre éthique, en fonction de vos valeurs, vous acceptez ou non de répondre à des critères géopolitiques globaux via vos petites actions du quotidien, en vous disant que vous consommez d'une certaine manière, ou comment vous voulez vous investir dans la société, ou comment est-ce que vous menez vos actions du quotidien, en capitalisant sur les pôles de connaissances qui sont à votre portée. Ça peut être la connaissance émotionnelle, avec vos grands-parents qui sont une mémoire émotionnelle de votre famille, la mémoire vivante. Peut-être que vous avez même des arrière-grands-parents, ou bien que vous ne les avez jamais connus. Dans ce cas-là, vous êtes peut-être orphelin, et vous devenez à votre tour la référence en tant que mémoire émotionnelle de votre famille, mémoire historique. Peut-être que des recherches permettent, dans ce cas-là, de remonter un peu l'arbre généalogique. Il y a les amis, les connaissances, les relations. Il y a les livres, il y a Internet, il y a les objets, il y a les lieux, les musées, les cinémas, il y a l'art, il y a la science, il y a les mathématiques, il y a l'univers, il y a la planète Terre, pour commencer, bientôt Mars, il y a la guerre, il y a la paix, et il y a ce que vous en faites. Pourrait-on considérer que nous avons la responsabilité de ce qui nous arrive en fonction de notre usage de ces pôles de connaissances? Vous avez le droit de répondre par oui ou par non et de trouver des passerelles entre les deux. L'inconvénient de ces choses-là, c'est comme toute connaissance, faut-il en avoir connaissance? Et quand on ne sait pas qu'on ne sait pas, comment voulez-vous imaginer que vous ne savez pas que vous ne savez pas? Tout simplement parce qu'à nouveau, c'est une zone grise. C'est derrière un mur invisible. C'est comme un miroir sans teint. Si nous vivions entourés de miroirs sans teint, nous aurions l'impression de nous voir en permanence. Mais nous ne savons pas que derrière, d'autres personnes peuvent nous voir. Eh bien, c'est peut-être l'image qui me permet d'enchaîner sur l'épisode suivant. L'intelligence, la forme d'intelligence promue par notre société aujourd'hui, serait donc la capacité à imaginer qu'il n'y a pas de mur, mais bien ce que nous sommes capables de créer pour passer vers l'inconnu, en tant que personne curieuse de nous développer, soucieuse de retranscrire ce que nous apprenons dans le monde physique, sous réserve que ces pôles de connaissances que nous exploitons correspondent à nos valeurs et à une vision personnelle de ce qu'est le vivre ensemble, de ce qu'est le vivre à plusieurs, pour répondre à des enjeux d'intelligence à la fois promus par notre société, que nous promouvons en parallèle, qui peuvent ne pas être totalement alignés, de telle sorte que nous soyons capables de faire bouger la société à notre échelle et de le distribuer vers d'autres pôles de connaissances qui sont les autres personnes, au même titre que des Mahatma Gandhi ou bien des Jean-Jacques Rousseau ou bien j'en passais des meilleurs, ont été capables de le faire en manageant les intelligences pour respecter finalement la boucle peut-être bouclée de cette manière. La relation à l'intelligence et à la performance promue par la société en s'y intégrant et en la picorant de l'intérieur pour se développer eux-mêmes. Alors, cet épisode a pu être assez riche. Aussi, je vous invite à me partager, à nous partager vos retours d'expérience par rapport à l'exploitation que vous avez de vos propres pôles de connaissances. Je pense à des Marie-Cécile, à des Sophie, à des Amina. Je pense à des Addicted to Bass. Je pense à des Jack. Je pense à des Khaled. Je pense à bien d'autres encore, que je ne citerai pas tous aujourd'hui, mais qui sont des pôles de connaissances absolument incroyables en tant que personne et qui ont des visions complémentaires que l'on peut associer de telle sorte que on orchestre comme ça tout un tas de connaissances pour faire des pôles plus grands et se dire que finalement il y a des convergences possibles entre les uns et les autres pour nous amener à faire bouger un peu plus vite peut-être, un peu plus grand probablement, et sûrement, ça c'est certain, des choses qui nous tiennent à cœur plus profondément que simplement la vie qu'on nous a promue quand on était tout petit, qui pouvait être liée au fait que travailler doit se faire dans la souffrance ou dans le respect de monsieur pensant en haut, parce que oui, ce monsieur est souvent bien un homme. Donc redescendre à notre échelle, un pouvoir d'action important. Vous avez une voix, exploitez-la. Je vous invite également à suivre la page Instagram Les Doigts dans le Miel où sont publiés les différents épisodes. Nous sommes à l'épisode, devinez, numéro 266. Vous pouvez le commenter, vous abonner à la page, partager vos opinions, vos points de vue, vos réflexions, vos doutes, vos craintes, vos peurs, vos plaisirs, vos joies, vos découvertes, vos innovations personnelles. En gros, soyez le pôle de connaissances digne de qui vous êtes. C'est Pierre, Les Doigts dans le Miel. Le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Belle journée.